Les parts actualité. Bonjour à vous toutes et vous tous. Nous sommes aujourd'hui le mardi 7 février 2017. Clotilde Saïe est avec vous. En ce matin, gris, froid, humide et comme vous l'a dit très justement Hélène un petit peu plus tôt, eh bien, faut s'attendre à quelque chose de pas terrible ce soir et cette nuit. Alors, vigilance sur les routes. Alors, les titres aujourd'hui au Par Actualité, sauver la vue des patients à distance. À l'hôpital de Sorel-Tracy, c'est au tour des pneumologues de dénoncer le refus d'achat du bronchoscope. Et puis, différents organismes plaident pour la bonification des services aux enfants autistes dans la région du Bas-Saint-Laurent, comme c'est le cas du petit Victor Gravel de Rimouski. Également aujourd'hui à l'émission, Élections Canada étudie le vote électronique pour les électeurs absents et une collection de vêtements pour enfants handicapés. C'est une première en France. Les entrevues du jour avec Claude Dussault, protecteur du citoyen par intérim au sujet des interventions et des recommandations au CIS de la Gaspésie. Au sujet de la bonne tenue des CHSLD notamment, et puis aussi l'organisme... Ah ben oui, c'est Jonathan Goulet aujourd'hui que je reçois, Jonathan Goulet, de, responsable des sports et loisirs de la FADOC. Alors, sauver la vue des patients à distance, c'est signé Philippe Mercure. En tout cas, c'est d'après un texte de Philippe Mercure dans la presse. La docteure Marie-Carole Boucher en avait assez de voir des patients perdre la vue à cause d'une maladie pourtant facile à soigner. Pour que ces malades ne tombent plus entre les mailles du filet, elle a mis sur pied un programme de télémédecine qui confie à des caméras et à des infirmières des tâches auparavant exécutées par les médecins. Et elle rêve maintenant de l'implanter à l'échelle de la province. De son bureau de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, la docteure Marie-Carole Boucher ouvre un dossier d'un clic de souris. Une grosse boule orange striée de rouge apparaît à l'écran. La photo ne montre pas une planète, comme on pourrait le croire, mais l'intérieur de l'œil d'un patient. Cette photo a été prise par une caméra spéciale installée à Chisazibi, une communauté Cree de la baie James située à plus de 1000 km d'ici. La docteure Boucher en agrandit une zone à l'écran. « Regardez ici, dit-elle en pointant une tache rougeâtre, il y a une hémorragie. Cette personne ne le sait pas, mais si elle n'est pas traitée d'ici un mois, sa vision sera touchée de façon irréversible. » La spécialiste consulte les informations du patient affichées à l'écran, puis elle tape quelques directives au clavier. Avec ça, il va être traité. « Un corridor de service qui fonctionne, c'est ça, dit-elle avec une satisfaction évidente. » En tout, l'intervention de la docteure Boucher a duré moins de 2 minutes. Nouveau clic de souris, nouvelle boule orange à l'écran. La rétinopathie diabétique est la principale cause de cécité chez les gens de moins de 60 ans. Elle se produit quand le diabète s'attaque aux vaisseaux sanguins qui irriguent l'œil. Les vaisseaux endommagés laissent échapper du sang qui s'accumule sur la rétine. Pour compenser le manque de vascularisation, l'œil peut aussi réagir en stimulant la prolifération de vaisseaux anormaux qui finissent par saigner et menacer eux aussi la vision. La maladie se traite efficacement par des interventions au laser ou des médicaments, le HIC. Les cas de diabète sont en explosion et le système peine à suivre tous les patients à risque. Le problème de cette maladie est qu'il n'y a pas de signe avant-coureur. La personne n'a absolument aucun symptôme avant de se rendre au stade avancé et de constater que sa vision est atteinte, de dire la docteure Marie-Carole Boucher. Elle-même dit voir débarquer dans son bureau des patients sévèrement atteints. Ces cas ne devraient jamais se rendre à ce stade. Le système ne fonctionne pas, il n'a jamais fonctionné, dénonce-t-elle. Alors sa solution, des caméras déployées dans les cliniques, les CLSC, les pharmacies. Chacune coûte environ 35 000 $. Elle peut être manipulée par un technicien ou une infirmière et peut prendre une photo de la rétine des patients en moins de 10 minutes. L'idée est de placer les caméras sur le chemin des patients, dit-elle. La photo des yeux sont transmises automatiquement aux spécialistes de la santé. Des infirmières formées peuvent les analyser, ne renvoyant que les cas problématiques au médecin. Sur 100 lectures de dépistage, le médecin finit par n'en voir que 10. Et quand il voit les patients, c'est exactement au moment propice, dit-elle. Elle martèle son mantra comme un slogan, le bon patient au bon endroit, au bon moment. Parce que son diagnostic est fiable et que les traitements sont efficaces et peu coûteux, la docteure Boucher estime que la rétinopathie diabétique est la maladie idéale pour la télémédecine. Façon de faire révolutionnaire, pas aux yeux de la docteure qui trouve au contraire qu'il est drôlement temps qu'on s'y mette Regardez autour, dit-elle. Tout le monde s'échange des photos et des images depuis des années. C'est tellement facile. Comment ça se fait qu'on n'ait pas intégré ça dans notre système de santé? Ça n'a absolument aucun sens. On parle souvent de problèmes dans les CHSLD. On a l'impression que bien des gens ne sont pas traités comme ils le devraient l'être. Et c'est le cas un petit peu partout au Québec et notamment en Gaspésie. Et pour nous en parler, je m'entretiens dès maintenant avec Claude Dussault. Monsieur Dussault, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes protecteur du citoyen par intérim. Je précise et j'aimerais bien qu'on parle un petit peu des interventions qui ont été faites et des recommandations également qui ont été déposées au CIS de la Gaspésie. D'abord, qu'est-ce qui a déclenché ce processus d'enquête, monsieur Dussault?
Bien, écoutez, chaque fois qu'il y a une situation particulière, qu'un citoyen constate une situation particulière, il peut nous faire ce qu'on appelle un signalement à nous, aux protecteurs du citoyen. Évidemment, nos enquêtes sont faites de façon confidentielle, donc on ne dévoile jamais le nom du signalant.
D'accord.
La source, c'est ça. Dans le cas qui nous concerne, on a eu des signalements provenant de différentes sources et on a décidé de regrouper l'ensemble des éléments dans une seule enquête, pour laquelle on a visité 5 établissements de longue durée en Gaspésie et 5 établissements qui offrent des soins de courte durée.
Et là, vous avez constaté malheureusement qu'effectivement, la source a eu raison de vous contacter, c'est bien ça?
Bien, écoutez, on a constaté différents éléments problématiques. Rien qui mettait en péril la santé ou la sécurité des gens, mais plusieurs éléments qui pouvaient affecter grandement leur qualité de vie. Je peux vous donner quelques exemples.
S'il vous plaît, oui.
Dans un endroit, il y avait des personnes n'avaient pas eu, pour le nommer, c'était un seul des 5 CHSLD qu'on a visité, mais c'était celui que Mgr Ross a Gaspé. Il y a des gens qui n'avaient pas eu de bain depuis plusieurs années. Donc, c'était un lavage qui était fait à la main, à la débarbouillette. À un autre endroit, on réveillait les gens à 5h30 le matin pour le petit déjeuner, pour accommoder, si on veut, l'horaire du personnel. Évidemment, les gens n'aimaient pas se faire réveiller aussitôt le matin. On a aussi constaté des problèmes dans certains endroits où on avait des difficultés à interagir avec des personnes, des usagers qui avaient des comportements agressifs. Souvent, ce qu'on faisait, c'est qu'on les mettait en contention, c'est-à-dire on mettait une demi-porte. Plutôt que d'essayer de développer une approche pour les amener à changer leur comportement. Donc, ça nous a amené à formuler un grand nombre de recommandations. Évidemment, nos constats étaient différents d'un endroit à l'autre, si bien que souvent les recommandations sont ciblées à une installation comme telle. Mais disons qu'on a couvert un grand nombre d'éléments.
Bon, monsieur Dussault, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Parce qu'on parle souvent des problèmes. Enfin, il y a quand même énormément de gens dans ces CHSLD notamment qui sont des gens de bonne volonté, qui sont des gens travaillants, qui sont des gens qui ne comptent pas leurs heures. Alors, quel est le vrai problème et quelles sont les solutions qu'on pourrait leur apporter?
Bien, écoutez, je suis content que vous souligniez la contribution du personnel parce que c'est un élément qu'on a mis en lumière dans notre rapport. Manifestement, nos enquêteurs ont relevé le dévouement du personnel. Je pense que c'est important de le mentionner.
Oui.
Ce qu'on a constaté, c'est que les ressources sont limites, si vous me permettez l'expression.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a suffisamment de ressources, mais il n'y a aucune marge de manœuvre pour les situations imprévues, s'il y a quelqu'un qui est en crise ou une situation particulière qui se produit. Il y avait une espèce de mécanisme informel qui permettait aux gens dans les établissements de demander des ressources d'appoint lorsqu'il y avait une surcharge, mais c'était pas bien établi. Donc, on a formulé une recommandation, justement, à cet effet, qui est un mécanisme formel pour permettre aux employés de faire appel, si on veut, à des ressources additionnelles dans une situation particulière. Je dirais, les éléments qu'on a constatés, ne sont pas dramatiques en soi. Là, on a malheureusement des situations pires ailleurs dans le réseau québécois. Mais on a quand même vu des situations qui appelaient des correctifs et c'est pour ça qu'on a formulé des recommandations.
Oui, parce que quand même, de vous à moi, pas de bain pendant des années, c'est terrible, quoi.
Ben oui, absolument. Ben, encore une fois, les gens avaient quand même une hygiène, mais c'est pas une situation, on s'entend tous. Là. On dit que les CHSLD, c'est un milieu de vie substitut. Ben, je pense qu'il n'y a personne qui peut s'imaginer être pendant des années sans avoir accès à un bain.
Écoutez, je ne me souviens plus. Hier, j'ai lu dans le cadre de cette émission d'actualité, les paractualités, que je pense, est-ce que c'est dans la région de Victoriaville? Écoutez, j'ai peur de commettre une erreur, mais je sais qu'il y a un CHSLD qui a décidé de pratiquer quelques coupures au niveau des services offerts aux jeunes pour permettre aux usagers de pouvoir prendre des bains quand bon leur semble. Et bon, en tout cas, donc, vous voyez, entre autres. Et ils ont vraiment décidé de prendre les moyens à l'interne pour améliorer la situation de leurs usagers. Mais c'est toujours au détriment de quelqu'un d'autre.
Oui, effectivement.
Malheureusement.
Ce qu'il faut éviter, c'est des situations où une expression commune qui dit qu'il faut éviter de déshabiller Paul pour habiller Jacques.
C'est ça. C'est ça.
Nous, évidemment, chaque fois qu'on a un signalement, on s'assure de faire une enquête et de vérifier l'ensemble des éléments. Mm-hmm. Et il est évident que si on corrige une situation en créant un problème ailleurs, on n'a pas vraiment progressé. Là.
Non, c'est certain. J'imagine que ce qui s'est fait en Gaspésie se fait relativement partout. Comment ça se passe? Vous êtes...
Ben, écoutez, on a plusieurs signalements chaque année concernant différents CLSC. Mmh. On est allé à peu près dans tous les territoires, pas à chaque année, là, mais je vous dirais, moi, ça fait sept, là, je suis protecteur par intérim, mais ça fait sept ans que je suis vice-protecteur. Mmh. Et je dirais, au fil des années, on a visité un grand nombre de CHLD dans chacune des régions du Québec.
Oui, mais bon, est-ce qu'on s'entend pour dire qu'on n'a pas hâte d'arriver à cet âge-là et peut-être de nous retrouver nous-mêmes dans le lit d'un CHSLD en ce moment?
Ben écoutez, le premier élément, je dirais, par rapport à votre question, là, si on fait abstraction de la qualité des soins et des services qui s'y donnent, les gens qui se retrouvent en CHSLD, c'est des gens qui ont une situation de santé précaire. Donc, au départ, je souhaite pas à personne de terminer ses jours dans un CHSLD, puis ça implique probablement des problèmes de santé importants. Ceci étant dit, si on se retrouve dans cette situation-là, il est important que les gens puissent bénéficier de services de qualité.
Oui.
Je pense qu'en général, écoutez, le personnel est dévoué, les services sont de qualité, mais on a une situation où vraiment, là, on est vraiment à la limite de la capacité du réseau là, à donner des soins de qualité, et oui, c'est préoccupant.
Oui, c'est préoccupant parce que comme on sait qu'on ne rajeunit pas et qu'on est un paquet à ne pas rajeunir. On nous le dit, on nous prévient que d'ici 10 ou 20 ans, ça va exploser.
Ben absolument, c'est pour ça. Ben, je vous dirais, écoutez, le meilleur élément pour vos auditeurs, je vous dirais évidemment, c'est de maintenir des bonnes habitudes de vie et de se garder en santé le plus longtemps possible. Et nous, notre rôle au protecteur du citoyen, c'est vraiment de s'assurer qu'il y ait une qualité des services et on est toujours vigilant là-dessus. Dès qu'on a un signalement, on intervient, on fait des corrections. Je vous avoue, la collaboration du réseau est bonne. Comme dans le cas de la Gaspésie dont on parle aujourd'hui, on a formulé 19 recommandations. Elles ont toutes été acceptées. Donc, on s'assure de corriger pour continuellement améliorer la qualité des soins et services qui sont donnés aux gens.
Et puis, espérons qu'il y ait les moyens nécessaires de continuer de faire rouler tous ces CHSLD-là, notamment aussi.
C'est sûr, là, il y a une énorme pression financière avec le vieillissement de la population. Là, la demande de services autant de soutien à domicile qu'en CHSLD ne peut aller qu'en augmentant.
Bon, ben, écoutez, monsieur Dussault, Claude Dussault, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir répondu avec franchise à toutes ces questions. Je rappelle que vous êtes protecteur du citoyen intérimaire, mais enfin que ça fait déjà pas mal d'années que vous êtes là. Alors, je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une belle fin de journée.
Merci à vous, Mme Say. Bonne journée.
Merci, monsieur Dussault. Par actualité régionale, deux médecins spécialistes en pneumologie à Sorel-Tracy, les docteurs Martine Dulude et Jacques Godin, ont co-signé une lettre adressée au président de l'Association des pneumologues du Québec, l'APPQ, le docteur Pierre Meyer, ainsi qu'à son comité exécutif, le samedi 4 février, afin de demander un soutien face à la décision négative du ministère de la Santé concernant l'achat d'un bronchoscope Ebus à l'Hôtel-Dieu. Le ministère a réitéré son refus d'achat du bronchoscope Ebus à l'Hôtel-Dieu de Sorel le 25 janvier dernier. L'appareil devait être financé en entièreté par la Fondation Hôtel-Dieu avec des fonds amassés lors d'une campagne achevée en 2015. Sorel-Tracy est la région ayant le plus haut taux de cancer du poumon chez les hommes en Montérégie et le plus haut taux de tabagisme, peut-on lire dans la lettre. La prévision du nombre des bus qui seraient effectués à Sorel-Tracy est d'une centaine de cas par année, soit environ deux cas, une demi-journée par semaine. La lettre démontre également l'expertise développée grâce aux docteurs Martine Dulude et Paul Tran au cours des dernières années à l'Hôtel-Dieu dans le but de recevoir cet appareil. Et toujours selon les propos de la lettre, l'installation d'un tel appareil n'engendrerait aucun coût supplémentaire au ministère. Les formations seraient offertes gratuitement par les vendeurs des bus et les coûts récurrents demeureraient les mêmes, peu importe l'endroit où l'examen est effectué. En plus, comme les bus permettent plusieurs examens au même moment, ils permettraient de diminuer la duplication de procédures. Les pneumologues auraient été informés en 2015... que l'ancienne direction de l'hôpital en place à l'époque, gérée par Martine Bouchard, n'était pas allée au bout des démarches avec le ministère avant de donner son accord officiel à la Fondation pour la campagne. La nouvelle direction de l'Hôtel-Dieu aurait cependant repris la balle au bond lorsqu'elle a eu vent de cette information. Autrement dit, c'est la faute de l'ancienne direction. Autisme, différents organismes plaident pour la bonification des services aux enfants autistes, comme c'est le cas du petit Victor Gravel, 3 ans de Rimouski. Autisme de l'Est du Québec, l'ADEC affirme dénoncer les diminutions de services vécues par de nombreuses familles recevant des services du centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement, le CRDITED. L'organisme qui estime que des situations similaires à celles du petit Victor sont constaté régulièrement, salue la sortie de son père Maxime Gravel et encourage d'autres parents à unir leur voix. Le directeur de l'organisme, Philippe de Carousfel, se dit préoccupé, particulièrement depuis quelques années, par la diminution de la qualité de vie de certaines familles provoquée par les coupes dans son service. De son côté, le syndicat CSN des techniciens et professionnels du Centre intégré et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent rappelle qu'il avait déjà dénoncé les mesures d'optimisation budgétaire dans les services du CRDITED. En juin dernier, nous évoquions nos grandes inquiétudes en regard des coupures de services au programme d'intervention comportementale intensive que les parents d'enfants autistes connaissent bien sous l'acronyme ICI. À l'origine, nous estimons que pour l'ensemble du Bas-Saint-Laurent, environ 540 heures par semaine était dispensé directement à une clientèle vulnérable. Ce nombre a chuté à 130 heures par semaine il y a quelques jours, affirme la représentante syndicale au CRDITED, Shirley Anne Claveau. Le syndicat estime que le service était auparavant dispensé par une trentaine d'éducatrices et d'éducateurs et qu'aujourd'hui, seulement une dizaine est affectée à ce programme. L'organisation dit craindre pour la qualité des services dispensés. Nous sommes de plus en plus nombreux à joindre les rangs de la FADOC et je m'adresse aujourd'hui à Jonathan Goulet qui est responsable des sports et loisirs et qui va nous donner plein de bonnes idées
d'activités.
Bonjour Monsieur Goulet.
Bonjour, merci de nous recevoir.
Mais de rien. Alors, vous souscrivez à l'idée qu'il est important de vieillir en état actif?
Oui.
Mais
oui.
Comment on fait?
Comment on fait pour rester actif? Je pense que la recette est assez simple, là, c'est de voir ses intérêts, c'est quoi qu'on aime dans la vie, puis c'est de le réaliser. C'est trouver les moyens de le réaliser en fonction aussi de ses capacités et de ses moyens.
Mais c'est pas facile en hiver, hein?
Ça dépend. Il y a vraiment des activités pour tous les goûts. Puis sur le territoire, le moindrement qu'on fouille, là, il en existe tout plein. C'est sûr que l'hiver apporte son lot de... d'inconvénients.
Mais oui, c'est sûr. Vous savez, je pense aux gens, par exemple, qui aiment simplement prendre une bonne marche pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure par jour. Quand on se ramasse sur les trottoirs, comme on a par ici chez nous, c'est sûr que c'est beaucoup moins évident, quoi.
Oui, à ce moment-là, moi, je connais tout plein de gens qui seraient très heureux de leur montrer la marche nordique ou d'apprendre les beautés de l'hiver. Comment continuer ce beau sport-là qui est la marche? Comment le faire en groupe? Comment le faire en groupe avec des gens qui partagent soit nos conditions, comme j'ai rencontré des très beaux groupes de marche, de personnes qui vivaient soit aveugles ou soit avec 5 ou 10 % de leur vision. Mais il y a des façons de profiter de l'hiver et de rester actif, là.
Mais vous avez raison. Absolument de nous dire ça, mais ça se passe à l'extérieur de Montréal quand même. Je me vois mal sur la rue Sainte-Catherine en train de faire de la marche.
C'est encore drôle.
Oui. Alors, dites-nous, parce que moi je l'ai le programme sous les yeux, puis je trouve ça vraiment fantastique. Parlez-nous, tiens, par exemple, de la Saint-Valentin en forêt. est-ce que je vous pose une question piège?
Oui, bien en fait, ce que je vous explique, la FADOC, c'est un énorme organisme qui contient 3 paliers. Depuis sa fondation, là, en 1970, sa mission principale, c'est de regrouper les gens sur le territoire. Okay? De regrouper puis de rassembler les gens de 50 ans et plus. À ce moment-là, dans toute la province, il y a des clubs FADOC, dans toutes les régions du Québec. Et à ce moment-là, il y a des membres qui sont là et qui, de façon quotidienne, font des activités comme, par exemple, cette activité-là de Saint-Valentin, qui peut prendre une certaine forme, peut-être dans le Bas-Saint-Laurent, mais qui, dans la Naudière, va être une toute autre activité. Puis ça dépend vraiment de la saveur locale.
Donc, vous êtes vraiment, Jonathan, vous êtes responsable sport et loisirs de la FADOC dans sa globalité au Québec, et c'est énorme. C'est ce que vous êtes en train de me dire.
Oui, c'est une très belle responsabilité, si c'est ça que vous voulez dire.
Oui, mais c'est vrai. Et vous ne pouvez pas être au courant, je pense, de tout ce qui se passe dans le détail, dans toutes les régions du Québec.
J'essaie.
C'est bien ça.
Et j'aimerais ça.
C'est vrai.
Oui, mais dans une bonne mesure, j'en connais beaucoup.
Alors, mais est-ce qu'on peut être actif autrement que par l'activité physique? Bon, on ne va pas parler de bingo ici.
Est-ce qu'on peut être actif autrement que par l'activité physique?
Oui, la réponse à ça, c'est oui.
Oui.
OK. Je pense que le plus beau joyau de notre société, c'est le bénévolat.
Oui.
Une des plus belles façons de stopper le temps, okay? De rester jeune, de vieillir activement, c'est de sortir de chez soi, de prendre des causes qui nous tiennent à cœur, que ce soit l'intergénérationnel, que ce soit de livrer de la bouffe ou d'aider pour l'alimentation, ou juste de donner des cours de tricot puis d'apprendre ce qu'on fait à
Oui.
des gens qui ne le savent pas. Ça occupe à 100% l'attention. C'est passionnant. Ça nous fait sentir utile, confiant. Ça nous fait tisser des liens. C'est bon pour l'humeur.
Oui.
Je veux dire, c'est magnifique. Est-ce que c'est une façon de rester actif? Oui. Est-ce que c'est l'activité
Vous
physique?
avez raison.
D'un certain sens, oui, parce que les gens sortent. Est-ce qu'ils courent, tu sais, puis ils ont la
Non, c'est
sueur,
vrai.
tout ça? Pas nécessairement, mais il faut doser.
Exactement. Puis au moins, comme vous dites, ils sortent de chez eux. C'est pas on sort du lit pour se mettre dans le fauteuil pour écouter la TV, quoi.
Exact. On se met un bon tricot préféré, un petit peu de parfum, on sort un sourire, puis on va rencontrer
Oh,
des gens. Ça,
oui.
c'est capital, ça.
C'est vrai, vous avez raison. Et la passation, hein, de ce qu'on sait, lorsqu'on arrive à un certain âge, il me semble que c'est important, ça, de
Le tissu
partager le
social, ah
savoir.
oui, vous avez tellement raison, là. Le tissu social québécois gagne tellement à avoir une cité, si je peux dire, qui est inclusive, qui est donc bâtie pour inclure tout le monde et qui réunit les générations pour s'assurer qu'on a un tissu social qui est pertinent, que les générations qui s'en vont transmettent ce qu'ils savent puis leur
Absolument.
histoire à celles qui arrivent.
Absolument, absolument. Dites-moi donc, quand même, j'imagine que vous êtes assez fier de certaines réalisations de la FADOC.
Ah oui, je suis pas peu fier.
Oui, hein? Bon alors, lesquelles, par exemple?
Moi, j'ai découvert beaucoup depuis que je travaille à la FADOC, puis je côtoie des gens qui m'ont appris, par exemple, leur amour profond. J'aurais des exemples infinis, mais je vais commencer par exemple, la pétanque avec le Festival international de pétanque
Oui.
à Trois-Rivières. Cet amour-là pour ce sport-là, la communauté qui se tisse autour de ce sport-là, puis leur joie de vivre est incroyable. Un des plus beaux joyaux qu'on a à la FADOC, c'est que dans chacune des régions, de mai à environ, en fait, dès mars jusqu'à environ juin, dans chacune des 16 régions, il y a des jeux FADOC qui comprennent une panoplie de disciplines, allant du baseball poche, sac de sable, jusqu'à la course, la marche rapide. Il y a du hockey, il y a du tennis, il y a une panoplie de disciplines qui sont là. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les niveaux de pratique, et il y en a surtout pour tous les âges. Il y en a pour les
Oui.
personnes de 50 ans facilement, aussi bien que pour la personne de 95 ans. Moi, j'ai côtoyé des joueurs de hockey de 80 ans qui me plaquaient, puis je veux dire, c'est impressionnant à voir, là. Ça, c'est quelque chose dont on doit absolument être fier. Puis ça se cumule par des finales, là, les Jeux FADOC, par des finales provinciales en septembre.
Oui, et puis il y a pas que le physique, hein, qui compte aussi. Vous, à la FADOC, on travaille aussi tout ce qui est culturel, intellectuel.
Oui, non, il n'y a pas que le physique qui compte, effectivement. C'est important d'être à l'écoute de ses intérêts puis de
Bien
ce qu'on aime
sûr.
dans la vie. Peu importe l'âge qu'on a, est-ce que c'est des activités culturelles qui vont nous rendre joyeux? Est-ce qu'on a besoin de prendre des personnages puis de prendre part à des spectacles?
Mais oui.
Est-ce que c'est de bricoler, de façonner, de tisser, de faire du faux vitrail, de bricoler? Est-ce que c'est de faire des activités sociales? Est-ce que c'est de s'impliquer, de faire du bénévolat? Est-ce que c'est le sport? Est-ce que c'est un mélange de tout ça? Il faut voir. Puis il faut aller chercher les outils qui sont sur le territoire puis s'entourer des gens qui connectent avec nous.
Ah, j'ai l'impression d'entendre Madame Jeannette Bertrand, enfin pas dans votre ton de voix, mais c'est parce que lorsque j'ai rencontré Madame Bertrand, c'est tellement ce qu'elle m'a dit, et que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle se sentait encore tellement en vie, c'est qu'elle n'arrête pas, quoi.
Ouais, c'est inspirant, c'est d'ailleurs des témoignages inspirants comme celui de Mme Bertrand que nous, on n'hésite pas à mettre de l'avant en disant, écoutez,
Bien
c'est
sûr.
inspirant, alimentez-vous, go, foncez, croyez en vos
Exact.
rêves.
Exactement. Eh bien, bravo, monsieur Goulet. Vous avez une voix très jeune. Est-ce que je peux me permettre?
Oui, mais je vous remercie.
OK. Alors, je ne vous demanderai pas votre âge parce que ce n'est peut-être pas vrai, mais je trouve que vous avez une voix très jeune.
On est en onde quand même.
Bon, ne raccrochez pas tout de suite. Je serais bien curieuse de savoir quel âge vous avez. Parce que pour travailler comme ça et d'être responsable des sports et loisirs à la FADOC, Jonathan Goulet, vous êtes absolument charmant et je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Bonne fin de journée.
Ça m'a fait plaisir. Pour tout autre information, fadoc.ca, tout est là.
D'accord,
Bye bye.
fadoc.ca. Merci beaucoup, Jonathan. Au revoir. Par actualité nationale, Élections Canada étudie le vote électronique pour les électeurs absents, mais pas seulement absents. Élections Canada examine l'option d'un système de livraison électronique des bulletins de vote pour accélérer le processus de vote par correspondance. L'organisme fédéral veut recueillir l'avis de fournisseurs potentiels pour savoir comment concevoir un système qui permettrait aux électeurs inaptes à voter physiquement de télécharger et imprimer un bulletin de vote au lieu d'attendre d'en recevoir un par la poste. Les personnes atteintes d'un handicap, les électeurs se trouvant temporairement loin de leur domicile et tout individu qui ne voudrait pas voter de façon traditionnelle serait admissible à ce nouveau système. Élections Canada qualifie l'exercice de collecte de données afin d'examiner les possibilités technologiques, soulignant que la loi sur les élections devrait être modifiée avant l'adoption de tout changement. Pour la première fois, Kiabi propose une collection de vêtements pour enfants handicapés. La marque propose une collection en ligne, spécialement adaptée aux enfants et adolescents en situation de handicap et envisagerait un jour de les vendre en magasin, mais cela se passe en France. Mais pour l'instant, tant que c'est en ligne, on peut tous en bénéficier. Kiabi est la première enseigne de prêt-à-porter en France. Elle s'est associée à la jeune marque Les Loups Bleus pour proposer une collection de vêtements adaptés aux enfants et aux adolescents handicapés. Elle est notamment conçue pour les enfants à mobilité réduite, en fauteuil roulant ou avec des handicaps moteurs. Mathilde Desvambaise, chef de produit web chez Kiabi, explique que la marque cherchait des personnes qui connaissaient le sujet pour proposer des pièces pas trop techniques mais astucieuses, proches de ce que portent les enfants. Cécile Pouleur, la créatrice des Loups Bleus, a donc été contactée par Kiabi en mars 2016 pour proposer une première collection. Il y a un vrai besoin. Au début, j'étais sur la défensive. J'avais peur de ne pas être à la hauteur du prêt-à-porter. Et puis, j'ai saisi l'opportunité de rendre accessibles ces habits au grand public et de toucher le plus de monde possible, explique Madame Pouleur, dont l'une des filles est handicapée. Alors, les capes adaptées notamment aux enfants en fauteuil roulant, qu'on peut voir en photo sur ce papier, sont disponibles sur le site kiabi.com. Je vous appelle le mot Kiabi, K-I-A-B-I.com, K-I-A-B-I.com. C'est de bon cœur que nous vous invitons à la fête de la Saint-Valentin qui aura lieu au Centre communautaire Cécitas Lyons, au 523 boulevard Louis XIV, le samedi 11 février prochain. C'est le souper de Saint-Valentin du Carrefour québécois des personnes aveugles à Québec. Alors donc, c'est le 11, l'accueil se fait à 16h45. Il y aura une boîte à chansons, donc de la chanson à 17h15 et le souper à 18h15. Pour les personnes handicapées de la vue, il en coûtera 10$ et pour les personnes voyantes, 14$. Et on peut s'inscrire jusqu'à demain, mercredi, par courriel ou par téléphone à cqpa@belnet.ca. Ainsi s'achèvent les paractualités. Merci à mes camarades et merci à vous de les avoir suivis. Bonne fin de journée. À demain, 11h30.